Merci Myriam pour nous avoir conduit dans ce temps de louange, d'adoration. On va continuer ce matin le parcours dans notre livre de l'Exode et on va aborder le chapitre 3 et le chapitre 4 de l'Exode, mais nous ne lirons pas l'entièreté de ces chapitres, mais on va se concentrer sur l'une ou l'autre partie. Je vous invite tout de suite à la lecture de Exode chapitre 3, les versets 1 à 15. Moïse faisait paître les brebis de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena son troupeau au-delà du désert et parvint jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme au milieu d'un buisson. Moïse aperçut un buisson qui était tout embrasé et qui, pourtant, ne se consumait pas. Il se dit alors, « Je vais faire un détour pour aller regarder ce phénomène extraordinaire et voir pourquoi le buisson ne se consume pas. » L'Éternel vit que Moïse faisait un détour pour aller voir et il l'appela du buisson. « Moïse, Moïse !»« Je suis là !» répondit Moïse. Dieu lui dit, « N'approche pas d'ici. Ôte tes sandales, car le lieu où tu te tiens est un lieu saint. » Puis il ajouta, « Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Alors Moïse se couvrit le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel reprit, « J'ai vu la détresse de mon peuple en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Oui, je sais ce qu'il souffre. C'est pourquoi je suis descendu pour le délivrer des Égyptiens, pour le faire sortir d'Égypte, et le conduire vers un bon et vaste pays, un pays ruisselant de lait et de miel, celui qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Yébousiens. À présent, les cris des Israélites sont parvenus jusqu'à moi, et j'ai vu à quel point les Égyptiens les oppriment. Va donc maintenant. Je t'envoie vers le Pharaon pour que tu fasses sortir d'Égypte les Israélites, mon peuple. » Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et faire sortir les Israélites d'Égypte ?»« Sache que je serai avec toi, » lui répondit Dieu. « Et voici le signe auquel on reconnaîtra que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir le peuple hors d'Égypte, vous m'adorerez sur cette montagne-ci. » Moïse reprit, « J'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai, « Le Dieu de vos ancêtres m'a envoyé vers vous ?» Mais s'ils me demandent « Quel est son nom ?» Que leur répondrai-je ? Alors Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui est. » Puis il ajouta, « Voici ce que tu diras aux Israélites. « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Puis tu leur diras, « L'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom pour l'éternité. C'est sous ce nom que l'on se souviendra de moi pour tous les temps. » Jusqu'ici, c'était la lecture de la parole de Dieu. Je ne sais pas qui parmi vous, dans cette salle, avait vu le film Rasta Rocket. Peut-être juste lever la main, ça donne une idée. Ça va, je ne suis pas encore trop vieux. Dans ce film, il y a une scène qui est mythique, et que je trouve excellente. Alors, pour un petit mot de contexte, c'est juste une personne qui essaye de recruter des Jamaïcains en Jamaïque pour monter une équipe de bobsleigh pour participer aux prochains Jeux Olympiques. Alors, ils font une réunion dans une salle, et bien sûr, plein de personnes viennent. La salle, elle est pleine à craquer. Et ils commencent à passer une vidéo pour présenter ce que c'est que le bobsleigh à des Jamaïcains. Et c'est juste génial parce qu'au fur et à mesure que la vidéo avance, qu'ils voient la neige, la glace, le froid. Et puis pire que ça, après ils commencent à montrer les accidents qu'il peut y avoir en bobsleigh. On voit la caméra se figer sur les visages des gens qui se crispent et qui deviennent de plus en plus mal à l'aise. Et à la fin, quand la vidéo se termine, ils allument la lumière dans la salle. Il n'y a plus personne dans la salle. N'est-ce pas notre réaction naturelle face à l'appel de Dieu quand l'on mesure ce que cela va nous coûter d'y répondre? On va revenir brièvement sur les deux premiers chapitres d'Exode que Mamie a évoqué avec nous dimanche dernier. On a vu dans ces deux premiers chapitres la description de la situation des Israélites qui sont devenus un peuple. On y voit leur souffrance, on voit combien ils sont maltraités et écrasés par l'esclavage du puissant roi d'Égypte, le grand Pharaon. Mais une petite lumière apparaît au travers d'une succession de choix qui conduisent finalement un petit bébé israélite, Moïse, à échapper miraculeusement à la mort pour grandir comme un prince à la cour du grand Pharaon. Mais cette petite lumière, ce petit espoir s'éteint rapidement, en tout cas retombe, quand Moïse veut prendre les choses en main, va tuer un Égyptien et doit finalement s'exiler en terre étrangère pour échapper à nouveau au désir de Pharaon de le faire tuer. On est là à la fin, quasiment à la fin de ce chapitre 2, et l'échec semble total. 40 nouvelles années s'écoulent pour Moïse, qui va devenir un simple berger en terre étrangère. Il a maintenant 80 ans, 40 ans qu'il a quitté l'Égypte, 40 ans qu'il est en terre étrangère. Et c'est dans ce contexte que s'ouvrent le chapitre 3 et 4, dans lequel Dieu choisit de se révéler à Moïse de façon extraordinaire, par ce fameux buisson ardent, brûlant, devrait-on dire peut-être le buisson parlant, parce que c'est bien là le plus incroyable, et où Dieu dévoile à Moïse son ordre de mission. Versets 8 et 9 du chapitre 3, Dieu rappelle à Moïse, il lui dit « Je ne suis pas indifférent à ce que mon peuple traverse. J'ai vu la souffrance de mon peuple, donc j'ai vu sa souffrance, j'ai entendu ses cris, je suis descendu pour le délivrer. » Et son ordre de mission tombe. « Maintenant, vas-y. Je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. » En fait, Dieu est en train de dire à Moïse, « Je vais intervenir, mais je vais le faire par toi. » Et cet ordre de mission, bien sûr, déclenche une grosse confrontation entre Moïse et Dieu. Et cette confrontation a pour toile de fond le thème de l'identité. Si vous parcourez l'ensemble du chapitre 3 et 4, vous verrez à cette reprise « Je suis ». Trois fois, il est question du nom de l'Éternel. Et puis, j'ai pas compté, mais à combien de reprises Dieu rappelle qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tout tourne finalement autour de deux questions. La première, qui est Moïse? La deuxième, qui est Dieu? Devant cet appel de Dieu, Moïse va formuler cinq objections. Exode, chapitre 3, verset 11. « Qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte ?» En gros, ce que Moïse est en train de dire, c'est « Je ne suis pas à la hauteur. Est-ce que tu as vu, deux secondes, vers qui est-ce que tu m'envoies? Qui va être face à moi? On est en train de parler du Pharaon, l'homme le plus grand, le plus puissant d'Égypte et certainement du monde connu de l'époque. Je ne fais pas le poids devant ce gars. Je suis tellement petit, tellement faible face à lui. » Deuxième objection. Exode chapitre 3, verset 13. « Mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je » Autrement dit, Moïse est en train de dire « Je ne sais pas comment tu t'appelles, ni qui tu es vraiment, au fond. Je ne te connais pas suffisamment, et sûrement que le peuple d'Israël non plus. Qu'est-ce que je vais leur dire? Quel message je vais leur apporter ?» Troisième objection, Exode chapitre 4, verset 1, « Ils ne me croiront pas et ne m'écouteront pas. » Autrement dit, Moïse est en train de dire « Je ne serai pas crédible. Ils vont m'ignorer. Ils vont me rejeter. Ils vont se moquer de moi. » Quatrième objection, Exode chapitre 4, verset 10. « Je ne suis pas doué pour parler et ça ne date ni d'hier, ni même d'aujourd'hui. » Autrement dit, « Je ne suis pas capable. » Je n'ai pas les bons dons. Je ne sais pas bien m'exprimer. C'est vraiment pas mon truc. Cinquième objection, c'est même pas une objection. Exode 4, chapitre 13. « Ah Seigneur, envoie quelqu'un d'autre que moi. Tu te trompes de candidat. D'ailleurs, je suis même pas candidat. J'ai rien demandé. J'ai même pas cherché à être appelé. » Je n'ai pas envie. Laisse-moi. Laisse-moi retourner à ma petite vie tranquille de berger. Trouve quelqu'un d'autre. Envoie quelqu'un d'autre. Je ne suis pas la bonne personne. Erreur de recrutement. Rasta Rocket, je quitte la salle. Où est le Moïse du chapitre 2 qui était prêt à en découdre avec le premier venu ? Qu'arrive-t-il à Moïse ? Pourquoi est-ce que Moïse réagit ainsi ? Qu'est-ce qui se joue à ce moment-là dans le cœur de Moïse ? Quel mécanisme, pourrait-on dire, est à l'œuvre dans sa vie à ce moment-là ? La Bible appelle cela la crainte des hommes. La crainte des hommes. Nous craignons les autres parce qu'ils peuvent nous humilier. Nous craignons les autres parce qu'ils peuvent nous rejeter ou nous mépriser. Nous craignons les autres parce qu'ils peuvent nous faire du mal. Et je crois qu'il y a un petit peu de tout ça dans toutes ces objections de Moïse, si on regarde un petit peu dans le détail. Toutes ces expériences de crainte des hommes ont au moins une caractéristique en commun. Elles affirment « Les gens sont grands et plus grands que Dieu. » Et du coup, ils exercent une forme de contrôle sur notre vie. Pour Moïse, à ce moment-là, Pharaon est immense. Le peuple d'Israël est immense. Et Dieu est petit. Alors ne vous y trompez pas, nous sommes tous concernés par cette crainte des hommes. Et si vous n'êtes pas convaincu par cela, quelques extraits de situations. Avez-vous trop d'engagement ? Avez-vous de la difficulté à dire non, même quand le bon sens vous le dicte ? Avez-vous besoin de quelque chose de la part de votre conjoint ou de votre conjointe ? Avez-vous besoin que votre conjoint ou votre conjointe vous écoute, vous respecte ? Avez-vous des problèmes d'estime personnelle ? Il est fort possible que votre vie soit centrée sur ce que les autres pensent de vous. Et vous avez besoin d'eux pour renforcer votre sentiment de bien-être. Avez-vous de la difficulté à prendre des décisions ? Avez-vous peur de faire des erreurs ? Vous sentez-vous vide ou inutile ? Avez-vous besoin des autres pour vous remplir ? Pourquoi est-ce que nous sommes gênés quand notre enfant pique une crise en plein milieu du magasin. Nous arrive-t-il de mentir ? Nous arrive-t-il d'être jaloux des autres ? Pourquoi nous activons-nous à faire le ménage avant de recevoir des visiteurs ? On pourrait continuer par bien d'autres exemples. La question, c'est que devons-nous faire pour échapper à ce piège de la crainte des hommes qui nous concerne tous ? Pour cela, je vous invite à regarder et à nous poser cette question. Quelle est la réponse de Dieu à Moïse ? Qu'est-ce que Dieu dit à Moïse ? Alors, est-ce que Dieu, on va commencer par ce qu'il ne dit pas, est-ce que Dieu a adopté l'approche coach en développement personnel ? Moïse, t'es la personne idéale. Tu dois croire en toi, en tes capacités. Regarde, t'es l'homme de la situation. Tu as été élevé à la cour de Pharaon. Qui mieux que toi connaît le Pharaon, ses points forts, ses points faibles ? Tu vas y arriver, Moïse. T'as ça dans la peau. Est-ce que Dieu a approché avec Moïse l'approche yoga ? Moïse, tu dois faire le vide intérieurement et autour de toi. Tu dois te retrouver avec toi-même autour de ta personne et rechercher au fond de toi l'inspiration et l'énergie. Tu as tout. Tout est là en toi. Tout est là à ta disposition pour que tu puisses réussir. Tu as juste à le trouver. Est-ce que Dieu a utilisé l'approche psychologisante ? T'es en déprime ou quoi, Moïse ? Mais aucune personne normalement constituée réagirait comme tu le fais. Tu broies du noir, Moïse. T'es trop négatif. Tu vois que le verre à moitié vide. Faut te faire suivre, mon gars. T'as besoin d'aide. C'est pas normal. Non, Dieu ne flatte pas l'ego de Moïse. Il ne cherche pas à remonter son estime personnelle de lui-même. Et il ne l'enfonce pas non plus. Ah oui, c'est vrai. Maintenant que tu le dis, t'es pas vraiment un crack. Remarquez comme chacune des objections de Moïse est centrée sur lui-même et son insuffisance. Dieu lui dit, « Moïse, tu ne regardes pas au bon endroit. Arrête de craindre les hommes. Et pour cela, tu dois absolument regarder à qui je suis et réaliser que je suis bien plus grand que le plus grand des hommes. » Regardons un petit peu les réponses de Dieu à Moïse, à ses objections. Exode chapitre 3, verset 12. « Sache que je serai avec toi. » À la question « Qui suis-je ?», Dieu répond à Moïse « Je serai avec toi. » Surprenant, non. Quelqu'un a dit « Si vous voulez aller rendre visite à la reine d'Angleterre, alors ça, c'est l'illustration date maintenant, eh bien, il y a peu de chances que vous puissiez franchir les grilles du palais de Buckingham. On va vous dire, qui êtes-vous ? Qu'est-ce qui vous donne le droit d'être ici ? Et il y a peu de chances de passer le portail. Kate Middleton, quand elle avait 15 ans, n'aurait pas entendu une autre réponse que celle-ci. Mais aujourd'hui, elle peut dire, je suis avec lui, le prince William. Je l'ai épousé. Qui est-elle ? Son Altesse royale, la duchesse de Cambridge. Une identité qui lui vient de son mari. Dieu est en train de dire à Moïse, « Moïse, ton identité sera rattachée à la mienne. » À la question « Qui m'envoie ? Quel est ton nom ?» Dieu répond « Je suis celui qui suis » ou « Je suis celui qui est ». Qu'est-ce que Dieu est en train de dire dans ce moment solennel où il révèle son nom de manière unique dans la Bible ? Il est en train de dire « Je ne suis pas défini par autre chose que par moi-même. Je ne suis contraint par personne et je suis à l'origine de tout ce qui existe. Je suis celui qui n'a ni commencement, qui n'a ni fin. » Et un peu plus loin, au verset 15, il va utiliser le terme hébreu « Yahweh », qui est traduit dans nos Bibles plus souvent par « l'Éternel ». Celui qui est tout suffisant, celui qui suffit. Voilà qui je suis, le tout suffisant. Exode chapitre 4, versets 2 à 9, devant sa crainte de ne pas être cru, Dieu va donner à Moïse des signes de sa puissance au travers du bâton qu'il va lui donner, qui se transforme en serpent, au travers de sa main qui va glisser sous sa poitrine, qui va ressortir lépreuse, puis qui va remettre et qui va ressortir purifiée. Et enfin, par l'eau du Nil qui sera changée en sang. Tout cela afin de garantir la crédibilité de Moïse. Exode chapitre 4, verset 11. Devant l'incapacité à bien s'exprimer, Dieu lui pose cette question. Qui a créé ta bouche, Moïse ? La capacité de parler, d'entendre et de voir vient de moi, le Créateur de toutes choses. Je n'ai aucun souci à te rendre éloquent, si je le veux. Enfin, devant le refus persistant de Moïse, Dieu lui propose de l'aide et un appui au travers de son frère Aaron. Toutes les réponses que Dieu donne à Moïse tendent à lui faire comprendre une chose. Je suis le tout suffisant. Je suis le tout suffisant. Ma présence, Moïse, sera suffisante. Mon nom est suffisant. Ma puissance est suffisante. Mon pouvoir créateur est suffisant. Ma provision est suffisante. Oui, Moïse, toi, tu n'es pas qualifié. Toi, tu n'y arriveras pas. Mais moi, je le peux. Et comme c'est moi qui t'envoie, alors vas-y, fonce. L'appel de Moïse à libérer le peuple de Dieu de l'esclavage de Pharaon est une préfiguration de l'œuvre unique que Jésus-Christ accomplira à la croix pour nous libérer de l'esclavage du péché et du diable. Mais pour nous, aujourd'hui, en 2025, qui vivons après la croix, nous avons tous aussi reçu un ordre de mission. Et on va le relire ensemble. Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20. « Allez !» Jésus qui dit à ses disciples, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. » Dieu nous envoie pour être ses témoins et faire des disciples parmi toutes les nations. Notre réponse ? Levée de bouclier, crainte des hommes. Je ne suis pas à la hauteur. Je ne connais pas suffisamment bien ma Bible. Les gens, ils vont pas me croire. Ils vont même pas m'écouter. Je ne suis pas vraiment doué pour partager l'Évangile, pour parler de Dieu. Il y en a qui le font tellement mieux que moi. Ce n'est pas pour moi, Seigneur. Envoie quelqu'un d'autre. Nous avons peur d'être humiliés. Nous avons peur d'être rejetés. Nous avons peur qu'on nous fasse du mal. Et c'est sûr. Et c'est sûr. Nous ne sommes pas capables de libérer quelqu'un de l'esclavage du péché. Nous ne sommes pas capables de transformer le cœur d'une personne. Mais Jésus, qui est Dieu, est le tout suffisant. Et je n'ai pas lu tout l'ordre de mission. Il manque une partie. Il manque quelque chose avant l'ordre de mission et il manque quelque chose après l'ordre de mission. Et je vais l'afficher, on va le lire ensemble. Regardez ce qui précède et ce qui suit cet ordre de mission. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Qu'est-ce qui suit ? Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus appelle et envoie des disciples bien insuffisants, mais les assure de la suffisance de sa puissance et de la suffisance de sa présence. Je termine, et si on doit retenir qu'une chose de ce qui a été partagé ce matin, c'est ceci. Assurer de la suffisance, de la toute suffisance de Dieu. Répondons à son appel, malgré nos limites. Je vais prier. Seigneur notre Dieu, merci parce que tu nous connais. Merci parce que tu sais de quelles pattes nous sommes faits. Merci parce que tu es celui qui ne vient pas remonter notre estime personnelle, mais tu es celui qui vient nous te révéler à nous. Et tu nous invites encore ce matin à lever les yeux de notre nombril pour les porter sur toi. Et dans le constat de notre insuffisance, de regarder à toi qui est le tout suffisant. Merci pour l'assurance de ta présence. Merci pour l'assurance de ta puissance qui est là jour après jour à nos côtés. Seigneur, délivre-nous de cette crainte des hommes et apprends-nous à te craindre, à réaliser toujours plus qui tu es et que cela puisse constituer pour chacun de nous un profond encouragement à répondre à ton appel. Non pas assuré de nos capacités, mais assuré que toi, tu es le Dieu capable et à qui rien n'est impossible. Amen.